Vous écoutez France Culture.
Place des Peuples, Madeleine Mukamabano.
Bonjour à tous. Avocat, cadre supérieur des multinationales ou représentant de grandes organisations non gouvernementales, la mondialisation a rendu visible, au nord comme au sud, un sous-groupe d'acteurs transnationaux que certains sociologues qualifient de nouvelle élite de la mondialisation. Et pour cerner les contours de cette élite et son positionnement aussi bien sur la scène nationale qu'internationale, nous sommes en compagnie d'Yves Dezalé, sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS, auteur, entre autres, de la mondialisation des guerres de palais, et c'est aux éditions du Seuil, c'était en 2002, et Pierre Philippe, sociologue, directeur du cycle Diversité Management à la formation continue de Sciences Po Paris. Yves Dezalé, les sociologues ne semblent pas d'accord parce que sous la plume de certains comme vous, par exemple, on ne parle pas de nouvelle élite de la mondialisation. En revanche, d'autres sociologues nous parlent d'une génération de décideurs ou d'acteurs, en tout cas, qui ont un certain pouvoir, qui sont des acteurs transnationaux ou supranationaux et qui seraient comme une génération spontanée qui n'a plus rien à voir avec la notion d'élite traditionnelle. Et c'est le cas.
Alors, je crois d'abord qu'il y a très peu de travaux réellement sociologiques et empiriques qui portent sur ces populations. Mmh. Donc, il y a beaucoup d'essayisme chez mes collègues sociologues et aussi chez les chercheurs en sciences politiques. Et donc, je serais tenté de dire que c'est peut-être là qu'il faut comprendre une partie de cette divergence. Pour ma part, je dirais que j'ai fait des milliers d'entretiens avec essentiellement des avocats, mais aussi des économistes, des consultants, des cadres d'ONG ou d'institutions internationales. Et ces gens-là, si vous voulez, ont pour caractéristique d'être à la fois d'être très bien intégrés dans leurs milieux nationaux, aussi bien au nord qu'au sud, et souvent encore plus au sud d'ailleurs qu'au nord, par contre, de pouvoir, à certains moments, soit au début de leur carrière, soit à la fin, aller de pied en pied et très facilement dans des lieux beaucoup plus internationalisés pour se former, pour y pratiquer à des niveaux divers, et que ça, si vous voulez, c'est un phénomène, mais on y reviendra, qui est relativement très ancien, et notamment, si vous voulez, dans les rapports Nord-Sud, où c'est très, très lié à la question de la colonisation.
Qui dit colonisation, dit cooptation aussi, non ? Alors, ou fabrication des élites cooptées.
La fabrication des élites cooptées, si vous voulez, la stratégie coloniale par excellence, celle des Britanniques, mais aussi celle des Français et des Américains et de beaucoup d'autres, ça a été justement de coopter des élites locales et qu'ils ont très souvent convertis ou formés comme juristes qui ont servi d'abord, si vous voulez, comme les prolongements et la caution locale des administrations coloniales et puis qui ensuite sont devenus les leaders de l'indépendance, des nouveaux États indépendants. Mais c'était des États indépendants qui forcément s'inscrivaient encore dans les réseaux de savoir, dans les réseaux institutionnels formés autour des sociétés coloniales.
Oui, Philippe Pierre.
Yves Dezalé a raison d'insister sur la conversion de valeurs entre plusieurs mondes. On pourrait certainement être amené à penser que être parmi les élites, c'est avoir la capacité de jouer avec les systèmes de valeurs. Moi, je distinguerais les aristocrates, les grands bourgeois, les bien-nés, et puis, d'une certaine manière, un nouveau lieu d'exercice. Alors ça va nous amener à nous questionner sur les mécanismes à l'œuvre des élites de la mondialisation. Ce nouveau lieu d'exercice, c'est certainement le lieu des grandes entreprises supranationales. Et en quelque sorte, on assiste depuis plusieurs dizaines d'années à une institutionnalisation des élites. C'est-à-dire que coexistent Les écoles, les grandes écoles, les institutions supérieures, des ONG, faisons-les rentrer aussi dans ce processus d'institutionnalisation, et également des grandes entreprises, avec cette question de la conversion des valeurs.
Mais quand vous parlez d'institutionnalisation, ça veut dire qu'il y a des normes.
Il y a des normes, ouais. Il y a des franchissements de frontières, et il y a des personnes qui sont plus ou moins capables, à partir d'une éducation. Vous parliez tout à l'heure de ce phénomène de brain drain, de fuite des cerveaux, je l'entendais comme ça. Il y a des personnes qui sont capables, certainement plus que d'autres, et dès le plus jeune âge, d'être dans le plurilinguisme, de cultiver plusieurs facettes. Et ça, c'est un phénomène, je crois, tout à fait intéressant.
Alors, Pierre Bourdieu, quand il avait analysé l'Église, disait qu'il y avait deux groupes. Il y avait les princes de l'Église, qui pouvaient rentrer dans l'Église sans perdre aucun de leurs privilèges financiers, mais aussi de toute autre nature. Et puis il y avait ce qu'il appelait les oblats, c'est-à-dire ceux qui devaient, pour rentrer dans l'Église, être accepté dans l'Église, aller par la petite porte. On parle de ça aussi pour le journalisme. Eh bien, je pense que pour la mondialisation, c'est la même chose. Il y a ceux qui rentrent de plein pied dans l'international, sans devoir pour cela renoncer ou sacrifier quoi que ce soit, au contraire, au niveau national. Et puis il y a ceux qui sont au contraire...
C'est ce que vous appelez les héritiers, vous, non ?
C'est les héritiers, voilà. Ouais. Et puis par contre, il y a ceux qui sont souvent les cousins pauvres ou les fils cadets, qui eux, effectivement, deviennent les cadets de l'internationalisation. Donc c'est eux qui ont été les cadets d'empire, qui sont allés et qui souvent ne sont pas revenus, tous en tout cas, ou très malades, en Inde, en Afrique et ailleurs. Et c'est, je dirais que ce qu'on trouve peut-être dans les multinationales actuellement, c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire que parce qu'effectivement, on ne va pas faire carrière en allant s'expatrier à Dakar. Peut-être que c'est pas mal d'aller à Dakar ou ailleurs.
On va faire carrière à Washington.
Oui, c'est pas du tout les mêmes gens qui vont à Washington que ceux qui vont faire du forage à Dakar ou au Nigeria. Hein. Et par contre, y a aussi, et je pense que c'est une chose intéressante, une grande différence selon qu'on parle des migrations du nord vers le sud ou du sud vers le nord. Parce qu'il y a un de vos collègues qui a étudié
mais,
ça.
Mais il y a aussi, oui. Là, on va laisser peut-être de côté la question de l'immigration. Il y a
non,
aussi...
non, mais je parle d'immigration de ce type-là, de l'immigration des élites.
Hein. Ah, d'accord,
Je parle des cadres des organisations, des institutions internationales, de l'ONU, par exemple. Ce qui est très frappant de voir, c'est que les Américains qui rejoignent les institutions internationales, Banque mondiale, FMI, ONU, etc., sont souvent pas des grands privilégiés, plutôt une espèce de méritocratie dans leur espace. Et lorsqu'ils sont dans les institutions internationales, ils tendent à y rester. Parce qu'effectivement, ce passage dans les institutions internationales n'est pas très valorisé dans les entreprises,
dans les pays du Nord.
Alors qu'au contraire, des gens qui viennent du Sud et qui sont souvent mieux nés localement, qui sont allés à la Banque mondiale et ailleurs... ensuite, effectivement, ils passent de plein pied et ils quittent la Banque mondiale pour devenir ministre des Finances ou président de la Banque centrale.
Pratiquement tous les présidents de banques centrales aujourd'hui en Afrique, ou même des ministres des Finances, ou même des présidents, c'est des gens qui sont passés par ces institutions.
Ce qui n'est pas vrai pour la Federal Reserve des États-Unis.
Pierre Philippe.
Être passé par, ça nous amène peut-être à cerner un trait commun de ces élites. Être passé par nous permet de distinguer trois populations. Les sédentaires, ceux qui sont enracinés, mais comme une ancre de marine, en quelque sorte, ils ne pourront pas quitter un territoire. Les mobiles, et puis en écoutant Yves Desallais, une aristocratie des mobiles. Alors ça nous amène peut-être à penser aussi ensemble la question du caractère multipositionnel des élites. Ce sont des gens qui sont, ou qui ont la capacité d'être ici, là-bas, et un peu ici et là-bas en même temps. Et
en a un ici.
Peut-être, oui.
Monsieur Strauss-Kahn, on peut dire qu'il est ici et là-bas, non ?
Eh oui, il est dans les deux champs. Il est un homme qui est ici, là-bas et certainement beaucoup ici et là-bas en même temps. Et puis, il a des représentants, monsieur Strauss-Kahn. Autre trait des élites dans la mondialisation. Il a des ambassadeurs, il a des personnes qui parlent, sinon en sa voix, qui peuvent prendre une part de son travail ici, là-bas et ici et là-bas en même temps.
Je dirais que c'est aussi exemplaire d'une autre caractéristique de ces élites mondialisées et nationales, c'est qu'elles jouent double jeu, elles jouent sur les deux tableaux. Et souvent, si vous voulez, alors ça c'est très vrai quand on regarde au niveau européen, elles sont à la fois bien installées à Bruxelles, Et en même temps, elles sont souvent aussi parmi les voix qui dénoncent l'emprise de l'eurocratie sur les sociétés nationales. Alors ce phénomène-là, si vous voulez, on le trouve beaucoup et pas seulement entre l'Europe et les pays nationaux. Alors, l'autre chose, si vous voulez, qui me semble très, très important, c'est que ces élites qui ont justement la capacité de jouer double jeu, c'est des élites qui apprennent très tôt à jouer ce double jeu, à manipuler deux langages, deux cultures, deux langues, etc., etc., et qui peuvent effectivement, grâce à cela, faire des allers-retours. Alors que très souvent, ceux qui n'ont pas ce privilège au départ, ce privilège hérité et cultivé, si vous voulez, grâce aux ressources familiales, eux sont obligés de sacrifier beaucoup, parce qu'effectivement, ils partent au sud, ils partent dans des pays comme expatriés, la famille suit plus ou moins, la femme ne va pas trouver du travail, les enfants ensuite vont avoir des problèmes pour ça. Et ensuite, ils vont avoir beaucoup de problème pour revaloriser, convertir, si vous voulez, les années passées dans les colonies ou ailleurs. Et regardez, par exemple, si vous voulez, les fonctionnaires de la coloniale et leur difficile réinsertion dans les espaces nationaux.
Oui, ce qui n'est pas le cas des élites dont on parle aujourd'hui.
Alors là, encore, oui.
Parce que là, on est dans l'interculturalité aujourd'hui. Ouais. C'est des gens qui sont aussi bien à l'aise à Washington.
La question de la supposée homogénéité des élites supranationales.
Voilà.
Je n'y crois pas non plus. Mais on pourrait distinguer ceux qui ont une capacité à être entre eux, l'entre-soi, ils ont un capital mondain, ils ont un capital patrimonial aussi qui les amène à être à l'aise économiquement pour voyager. Et puis les personnes dont parle Yves Desallais qui franchissent et qui gravissent cette montagne de l'international pas à pas. Alors là, ça nous amène à distinguer au moins aussi deux populations. Celles qui sont dans l'entre-soi, elles sont en effet à l'aise dès le plus jeune âge. Plurilinguisme, elles cultivent des rôles. Pour autant, ça pose quand même
l'usage
la question...
L'usage des langues est très important.
Oui, des langues et de la réception supposée du pouvoir des langues, des langages, des procédures, des sigles aussi, par rapport à un milieu d'accueil. Les langues, et puis on pourrait ajouter la labellisation, la normalisation, tout ce qui vous amène à cultiver une super compétence à l'international et qui vous amène, sinon à agir plus vite, du moins à agir un peu plus en sécurité en cultivant les échecs du passé. Vous les avez un peu plus en mémoire parce que vous avez été mobile.
C'est pas seulement les langues, parce que ce qui était intéressant, je pense que cette semaine, il y avait le monde avait, l'éducation avait fait un numéro sur les écoles. Et le fait que, justement, les écoles sont absolument, particulièrement en France, incapables à apprendre les langues, et particulièrement l'anglais. Parce que l'autre chose, si vous voulez, qu'il faut aussi dire, c'est qu'il faut aller derrière cette vocable de mondialisation, parce que dans les domaines que j'étudie, c'est-à-dire le droit, l'économie, les consultants, en fait, l'internationalisation ou la mondialisation, ça veut dire l'américanisation. Si vous voulez, c'est pas par hasard qu'actuellement, 50% des PhD en économie sont obtenus dans les grands campus américains. Donc ça veut dire que, si vous voulez, tous les économistes qui dominent les institutions financières de tous les pays, en fait, parlent facilement le même langage parce qu'ils ont été camarades de classe ou d'université dans les mêmes campus et qu'ils ne parlent pas des langues, mais en fait, une seule langue. De même manière, en droit, si vous regardez l'essentiel des grands avocats d'affaires maintenant, et ou des nationaux ou internationaux, tous ont maintenant systématiquement un LLM ou un diplôme nord-américain, souvent qui se complétait par des stages ou des périodes de travail dans des grands cabinets nord-américains. Donc, si vous voulez, cette mondialisation, c'est une américanisation, en fait.
On parle aussi du rôle de ce diplôme, du MBA que tout le monde court après, non ? Qui jouera un rôle aussi dans cette homogénéisation de la mondialisation de ces élites.
Oui, sauf que, si vous voulez, peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais le MBA, je pense que c'est un diplôme qu'on va trouver beaucoup dans les cadres dans les grands cadres des entreprises.
Qui est maintenant décentralisé, d'ailleurs.
C'est un diplôme qui est finalement beaucoup moins multiple, polyvalent, que, par exemple, les diplômes de droit qui permettent, si vous voulez, d'être aussi bien professeur, homme d'État,
chef d'entreprise,
intellectuel, soi-disant, etc., etc., et diplomate, bien sûr, aussi. Donc, c'est des diplômes. Alors, c'est aussi une autre caractéristique qui me semble très importante, c'est que la caractéristique de cette population, c'est justement un énorme capital relationnel. C'est des gens, si vous voulez, qui sont fondamentalement des diplomates, des courtiers, des gens qui mettent en relation tel groupe avec tel autre. Et donc, la possibilité de passer d'un univers à un autre est essentielle dans, justement, la valorisation de la multiplicité des ressources dont ils disposent.
Alors, on va revenir à cette question de relationnelle, mais encore un mot sur l'éducation. Est-ce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'homogénéisation de la fabrication des élites à travers l'éducation?
Oui, certainement, il y a une tentative. Pour autant, le mimétisme culturel n'implique pas forcément le partage des valeurs. Je voudrais insister sur ce point. Yves Dezalet a dit à juste titre tout à l'heure qu'un certain nombre de membres de cette élite ou de ces élites jouaient double jeu. Je crois que c'est vrai dans la capacité à être en intermédiation, en courtier stratégique. Pour autant, je voudrais insister sur un point. C'est les phénomènes également de tiraillement, de dissonance identitaire. On peut jouer double jeu, triple jeu et chercher soi-même l'unité de sa trajectoire. Je voudrais insister sur ce point parce que les élites dont on parle là, elles ne sont pas toutes issues des grands pays sous couvert d'une américanisation des processus pédagogiques. Il y a aussi des personnes qui vont aller conquérir un diplôme loin de leur terre pour ensuite très certainement le convertir dans leur pays d'origine. Mais pour autant, la trajectoire risque de faire vivre ces bricolages, ces métissages, ces dissonances. Je voudrais insister sur ce point.
Donc, quand on dit de tel groupe de gens qu'ils ont la culture de la Banque mondiale et rien d'autre, c'est pas tout à fait juste.
Ouais. Je crois que c'est très réducteur. Et on pourrait faire naître des stratégies d'identité, c'est-à-dire en fait un jeu dynamique entre un milieu d'accueil et puis la perception qu'on a de vous-même. Puisque le point de départ n'est pas le même. La couleur de peau, l'éducation, l'héritage, la socialisation primaire, tout ce que l'on a dès le plus jeune âge et qui nous paraît naturel et nous fait agir peut-être avec plus d'aisance, eh bien nous ne sommes pas sur la même ligne de départ. Et le MBA dont vous parlez ne nous donne pas en fait la capacité d'être sur la même ligne d'arrivée. Je voudrais aussi insister sur ce point qui nous amène aussi à un enjeu identitaire des trajectoires de ces élites mondialisées.
Alors,
Oui,
peut-être que le terme de double jeu est un tout petit peu provocateur, ou d'agent double, parce qu'en fait, si vous voulez, le fondement de la légitimité de ces groupes-là, c'est qu'en fait, ils se considèrent comme des porte-parole de l'universel. Et d'abord, si vous voulez, tout à l'heure, on a fait une liste des différentes catégories. Il y en a une qu'on a oubliée, peut-être pas par hasard, puisqu'on est tous les deux, on en fait partie plus ou moins, c'est les universitaires. Ça a été une des premières formes de mondialisation. Et les universitaires, si vous voulez, dans la foulée des clercs, oui. L'Église catholique, c'était effectivement quelque chose où les moines circulaient à travers les différents pays européens et autour de ce qui restait de l'Empire romain. Et les clercs, les universitaires, ont été la première forme de circulation. Et c'est souvent, si vous voulez, par l'acquisition d'un capital universitaire que le passage se fait de ces élites venant de ces héritiers venant de vieilles lignées familiales dans ces différents espaces nationaux. Et le droit a servi justement depuis la fameuse faculté de droit de Bologne au XIIe, XIIIe siècle, qui était la première faculté de droit européenne. Eh bien, si vous voulez, le schéma est fantastique. Je ne peux pas résister à vous le donner. Si vous voulez, vous avez des gens qui, dans la décomposition de l'Empire, se trouvent un petit peu contestés par l'arrivée des condottieries, par l'arrivée des marchands, par la constitution des États. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont reconvertir leur capital, qui est un capital social, qui est un capital financier, en envoyant leurs héritiers à Bologne. Et ça coûte cher, même si à cette époque-là, ce n'était pas très très loin, c'était quand même une entreprise coûteuse. Quand ils sortent avec leur diplôme doctorat de droit au bout de pas mal d'années, qu'est-ce qu'ils font? Leur premier travail, c'est d'être des diplomates, de justement mettre en relation les différentes cités-États, de négocier des traités, d'essayer de produire de la paix. Et ensuite, à partir de ce travail de diplomate, qu'est-ce qu'ils acquièrent? Ils acquièrent justement leurs entrées dans les différents milieux, dans l'Église, dans les cités-États. Et c'est ensuite sur cette base-là qu'ils vont pratiquer de manière très réussie comme juriste, diplomate, professeur, etc. Et ce modèle-là, si vous voulez, c'est exactement encore celui qu'on trouve dans beaucoup d'endroits cinq siècles plus tard.
Vous êtes d'accord?
En partie, oui, mais je crois que les conditions d'exercice ont peut-être changé. Pour être diplomate, on peut l'être à travers la confiance que l'on incarne. Et à ce moment-là, on peut être dans une coprésence physique. On va se réunir autour d'une table et nous serons diplomates. Ce qui change un peu aujourd'hui, c'est la possibilité ou pas de créer pour ces élites de la confiance à distance, l'introduction des nouvelles technologies. le fait d'être dans des structures de plus en plus matricielles. À qui dois-je rendre compte et à qui va m'évaluer? Je pense que ça pose des questions qui, sinon, ne sont pas nouvelles, du moins posent avec plus d'acuité parfois la face sombre de la conquête. C'est-à-dire, en fait, la façon dont ces élites vont devoir rendre compte, dont elles sont évaluées, et dont elles vont pouvoir trouver sens, encore une fois, j'insiste, cette dimension identitaire. Comment je peux bricoler avec mes enracinements? Je me souviens, en entreprise, être face à un homme qui était à la fois de nationalité de papier, indien et américain. Il me disait, en fait, l'Inde, c'est l'enfance de l'humanité. Dans le même temps, il ajoutait, oui, et les États-Unis, c'est l'humanité dans l'enfance. De quel côté était-il? De quel côté, véritablement, on pouvait percevoir chez lui une préférence? Mais je crois qu'il était, comme Yves Desallais le disait tout à l'heure, certainement des deux. Il jouait non pas double jeu, mais il était dans un pont entre enracinement, affiliation. Je crois que c'est un élément important à souligner.
C'est dans ce sens-là que j'entendais l'activité de diplomate, si vous voulez. C'est pas les gens du Quai d'Orsay seulement, c'est tous les gens qui, dans leurs espaces respectifs, font de la mise en relation.
De la médiation.
De l'intermédiation, etc.
Tout à fait.
Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui, en fait, se développe plutôt que ne se limite avec les nouvelles technologies. Parce que il y a, en fait, si vous voulez, une des différences, peut-être, entre les entreprises multinationales d'aujourd'hui et puis les premières, celles qui exploitaient les ressources, les gisements, etc., du terrain, bien sûr. C'est qu'avant, il y avait très peu de contrôle. Donc, les gens qui partaient en Iran ou en Arabie exploiter les premiers puits, ils étaient chez eux. Ils étaient maîtres chez eux. Ils bricolaient à leur manière. Ils faisaient, ils distribuaient. Et alors que maintenant, ça se passe.
Et puis, il y avait les questions de domination, peut-être, qui est un peu plus réduite aujourd'hui, non?
Je pense qu'elle a pris des formes plus euphémisées. C'est-à-dire que, si vous voulez, les premières compagnies pétrolières, par exemple, fonctionnaient avec des protégés. C'est-à-dire qu'ils trouvaient des gens qui, localement, leur servaient d'intermédiaires, qu'ils récompensaient en leur donnant à eux ou à leurs enfants la possibilité d'aller faire une école d'ingénieur au Texas ou ailleurs, etc. Et puis, les premières crises pétrolières, ça a été justement en grande partie ça. C'est-à-dire qu'une rupture entre des gens qui considéraient qu'ils avaient protégé qu'ils avaient éduqué, qu'ils avaient formé.
Et l'on peut dominer pour de bien mauvaises raisons, bien entendu, et même pour de bonnes raisons. C'est-à-dire qu'on peut vouloir amener la fée électricité dans des contrées lointaines, partager, comme vous le dites, le progrès, l'éducation, et faire naître de la violence symbolique, faire naître des rapports de domination très forts. Là, il faut intégrer à notre réflexion, je crois, les politiques de nationalisation des postes, si on est dans le champ pétrolier. C'est-à-dire, en fait, l'obligation, par le droit du travail, d'embaucher une main-d'œuvre locale. Et dans ce cas-là, les tiraillements, les dissonances dont je parlais tout à l'heure, la résistance culturelle à l'œuvre, elle s'exprime. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même trouver une certaine forme, Michel Socquet parle d'intelligence de l'autre. Je crois que là, on peut en parler. C'est-à-dire qu'il faut trouver, pour ces personnes dont Yves Desallais parle, qui sont loin... Sinon, loin des yeux, loin du cœur, du moins loin du siège, elles ont de l'autonomie en même temps. Elles peuvent risquer leur peau sur des plateformes ou sur des terrains. Donc, il y a à trouver peut-être là un équilibre culturel et en tout cas prévenir la résistance culturelle à l'œuvre. Donc là, on risque sa peau. C'est peut-être un peu différent tout à l'heure des populations dont je parlais qui sont matricielles ou en gros projet.
Oui. Alors,
Il y a aussi, si vous voulez, une division du travail. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours eu à la fois des différents types d'agents et les monarchies espagnoles ou portugaises, lorsqu'elles exploitaient l'or des Amériques, avaient tout un corps, pas seulement de militaires, mais aussi d'ecclésiastiques ou d'avocats.
De juristes,
pour justement contrôler ces processus d'exploitation, à la fois par s'assurer que l'or arrivait chez eux, mais s'assurer aussi que les colons n'allaient pas trop loin. Donc, si vous voulez, déjà, on voyait qu'effectivement, Las Casas et d'autres se posaient comme protecteurs des Indiens. Cette protection n'allait pas très très loin, mais elle était quand même une manière, en fait, de contrôler.
Est-ce que vous voulez dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle?
Alors, aujourd'hui, il y a un contrôle, mais qui passe par d'autres mécanismes. Ça va être effectivement les ONG. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois très proches socialement dans le recrutement, dans le fonctionnement, dans la pratique de ces institutions internationales, de ces grandes entreprises, et qui...
Oui, des ONG comme International Transparency ou...
Les premières, si vous voulez, ça a été Amnesty International. Et Amnesty International, c'est pas par hasard. Si ça a commencé, effectivement, dans la... lignée de la fin de la colonisation et si ça a utilisé une stratégie élitiste de prendre des grands notables qu'on envoyait en mission ici ou là pour essayer de... Bon, et sur ce modèle-là, si vous voulez, c'est toutes les ONG des droits de l'homme et les ONG de l'environnement et toutes celles que l'on voit maintenant qui se sont formées sur ce même modèle.
Ce que nous soulignons aussi ici, peut-être, c'est un trait commun des élites à maîtriser la production de la définition même de leurs compétences. Ce qui caractérise peut-être les élites dans la mondialisation, c'est qu'elles ont un pouvoir sur la règle et sur la super-règle. C'est-à-dire que quand elles sont de moins en moins puissantes à un niveau national, elles peuvent peut-être jouer à un niveau international. Puis il y a un deuxième point aussi.
Elles sont un réseau ou pas ? Est-ce qu'elles se sont constituées un réseau ?
Elles sont peut-être au nœud des réseaux. C'est-à-dire qu'il faudrait les localiser, comme l'a dit Yves Desallées tout à l'heure, en intermédiation au nœud des réseaux. Puis le deuxième point, c'est qu'elles peuvent aussi amener à désorganiser les groupes sociaux. Donc ça, c'est un point important. Puis la troisième chose aussi qu'on pourrait souligner chez certaines élites, c'est amener en fait une résignation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de projet alternatif. Et donc, la domination se fait, d'une certaine manière, en rendant ses propres concurrents internationaux, d'ailleurs exposés sur son champ national. Donc, vous voyez, là, il y a trois situations qui sont peut-être aux sources des rapports de domination dont on parlait tout à l'heure.
J'ajouterais un bémol, parce que la notion de réseau fait un petit peu quelque chose de mécanique.
Hein. Oui, c'est vrai.
On est inscrit dans des filières et on peut communiquer avec... Alors que la caractéristique, justement, de ceux qui sont au cœur de cette... C'est qu'elles peuvent... Elles ont plusieurs stratégies possibles. Elles ont toujours, si vous voulez, plusieurs fers au feu. Et elles sont souvent, si vous voulez, dans des institutions qui, elles-mêmes, sont très multiples. Donc, ils vont pouvoir, selon la conjoncture, selon les circonstances, opter pour mener à la fois plusieurs stratégies de front et prendre celle qui va être la plus réussie. Alors, je pense qu'il faut... nuancer cette notion de réseau en voyant que justement, il y a des gens qui ont la capacité d'opter pour, à un certain moment, de connecter dans un sens ou dans un autre et de faire des choix aussi. Et des choix qui sont toujours des choix de compromis. C'est-à-dire que dans la caractéristique, si vous voulez, de cette phase de contre-pouvoir, c'est que justement, comme il n'est pas si différent, si loin, même si effectivement on a l'image des forums sociaux mondiaux qui s'opposent à Davos, mais il y a quand même des connexions entre les deux. On a l'image de Seattle et puis des manifestants dans la rue. Mais en fait, ceux qui sont dans les cercles dirigeants des ONG sont souvent en lien et parlent avec ceux qui sont de l'autre côté. Donc, si vous voulez, il y a
mais
là...
Mais Yves Desallées, quand vous dites ça, on a l'impression quand même qu'on est face à un système avec des gens qui ont les mêmes valeurs, qui sont passés par les mêmes cursus universitaires, qui viennent plus ou moins des mêmes milieux, des héritiers ou pas, et que rien ne peut changer.
Si, ça change, mais à la marge.
Ou
c'est-à-dire
que c'est
si
eux qui définissent l'ordre mondial aujourd'hui, d'une certaine manière.
Disons qu'ils essayent de faire en sorte que la chose n'explose pas, mais comme on le voit actuellement, c'est pas toujours si simple. Regardez par exemple les bagarres qui commencent et qui s'aggravent entre les États-Unis et la Chine. Or, actuellement, une partie considérable de la classe dirigeante chinoise a fait des études ou a été très marquée par des passages à un moment donné sur les campus américains, dans les grandes entreprises américaines.
Donc, la fameuse américanisation du monde n'est pas juste.
Ça veut dire l'américanisation. L'Amérique, c'est aussi un carrefour. Hein. C'est un lieu où, justement, des élites très différentes
Au niveau de l'éducation, par exemple, que c'est la culture américaine, que ça passe
mais
pas
la culture
les grandes
américaine,
universités
c'est
américaines.
Que ce n'est pas une culture, c'est un melting pot. C'est un endroit, où, si vous voulez, qui est constamment en renouvellement. C'est un endroit où, effectivement, il y a constamment des bagarres, des luttes d'influence entre la côte Est et la côte Ouest, entre le monde universitaire et puis le monde de l'industrie, entre le monde de la politique ou les mondes de la politique, etc. Donc, c'est ça aussi qui fait que cette position de carrefour la rend très performante pour gérer justement les conflits, les luttes de la mondialisation.
Brièvement, Philippe Pierre, on arrive à la fin de l'émission.
Position de carrefour et puis peut-être insistons sur l'industrie de l'imaginaire. Capacité aussi à proposer des modèles d'identification. Vous parliez tout à l'heure de la force des MBA. Les modes de management comme les MBA sont situés culturellement. Et on s'aperçoit que là, il y a des effets de résistance culturelle. Donc j'insiste sur ce schéma dynamique entre milieu d'accueil et milieu d'origine.
Et la place des Indiens dans les MBA, c'est ici tout.
On aura l'occasion d'en parler. Merci, vous écoutez France Culture. C'était Place des Peuples. Aujourd'hui, les nouvelles élites de la mondialisation avec Yves Dezalé, directeur de recherche émérite au CNRS, auteur de La mondialisation des guerres de palais, publié au Seuil en 2002, et Philippe Pierre, directeur du cycle divers Management à la formation continue de Sciences Po Paris. Attaché d'émission Catherine Madure, réalisation Brigitte Mazire, prise de son Pierrick Charles, réalisation Brigitte Mazire. France Culture, il est 16h30, l'heure de retrouver la fiction pour les petits et les grands.